Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Brébois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Laure Le Payeur, avec Jérôme Rotten, avec Daniel Riolo, bien sûr, et avec Thibaut Leplat qui nous rejoint tout de suite. Thibaut, bonsoir.
Salut Gilbert, Daniel, salut tout le monde, bonjour Laure. Tout le monde.
Bonjour,
alors, je livre juste deux, trois messages. Salut, sur le débat précédent avant de te donner la parole, Thibaut. Qu'est-ce que j'ai, par exemple Rico qui lui dit, bah, attendez, sur la corruption. Si moi, je voulais voter pour un pays au départ et qu'ensuite, on vient me dire, je te file un million pour le faire, est-ce que c'est de la corruption? Bah, évidemment, Rico, voyons, que n'importe quoi.
En même temps, s'il en a rien à cirer des deux pays en question, on peut comprendre qu'il accepte. Mais c'est pas propre, c'est pas beau, faut pas dire ça.
C'est,
mais
oui, évidemment.
Non, c'est pas sérieux.
Ouais. C'est toi qui dis ça, tu dis si t'es à la tête d'un pays là-bas.
Non, si je suis à la Fédé Saint-Vincent-les-Grenadines, ah, bon, allez, si je me fais arroser pour améliorer ma villa.
Tu te feras arroser, toi, c'est sûr.
Hassan qui nous dit, les supporters de Tottenham demandent ce que font beaucoup d'entreprises, dont la mienne. Il y a suffisamment d'argent dans l'entreprise pour ne pas faire de demande de chômage partiel et du coup ne pas gréver les finances de l'État. Voilà ce que demandent les supporters de Tottenham, on avait bien compris. Et donc, effectivement, Tottenham a le projet de passer au chômage partiel. On va voir ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont suivre leurs supporters ou pas. Et puis, Pascal nous dit, quand vous êtes en radio-travail, on entend beaucoup de bruit. C'est vrai, bah oui, c'est le... Malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas avoir un son parfait.
Il dit, c'est quoi les bruits?
Bah, Pascal le dit, j'ai l'impression d'entendre Daniel en train de tripoter ses jetons de poker.
Non, de manger, oui, mais pas les jetons de poker.
Bon, bref. Alors, Thibaut, tu es là parce que tu as publié un papier intéressant, très intéressant sur le site de SoFoot. Concernant le foot post-coronavirus. Alors certains appellent à des grenelles.
Dans un cas particulier, son article et que j'ai trouvé absolument passionnant et très intéressant, c'est dans un cas particulier. C'était ce qui s'est passé en Espagne en 2008. Détails qu'il a donnés, que d'ailleurs j'avais complètement oublié la situation de l'Espagne à ce moment-là.
Je te remercie de m'avoir coupé la parole pour expliquer.
Pardon. Vas-y, continue. Voilà.
Donc je vais laisser Thibaut nous expliquer quel était le but de son papier et ensuite on débattra ensemble. Thibaut Leplat qui est avec nous, qui est habitué de l'after, hein, Thibaut, on t'écoute.
Ouais, ben, je suis parti de la scène, on est en confinement, donc on confine, hein, donc on réfléchit, on essaie un peu de se demander ce qui va se passer.
Ouais.
Et puis en regardant un peu moi sur les trucs sur lesquels j'avais bossé, parce que j'ai été longtemps en Espagne, vous savez, j'étais longtemps correspondant en Espagne, et puis j'ai écrit quelques bouquins sur l'histoire du foot. Du coup, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on a des événements similaires, on a des situations comme ça où, en gros, le pays s'arrête et que devient le foot, quoi. Et donc, j'ai pas eu besoin de remonter trop parce que je suis allé jusqu'en 2008 et je me suis souvenu de ce qui s'est passé en Espagne. Et si tu regardes, en fait, l'histoire du foot et tu regardes ce qui se passe à partir de 2008 jusqu'à 2014, qui correspond, en gros, à la période où a duré la crise en Espagne, officiellement, hein, parce que selon le gouvernement espagnol, entre 2008 et 2014, ça tombe pile poil sur la période où les Espagnols ont absolument tout éclaté en sport et en particulier en football. Et pas seulement dans les catégories professionnelles, aussi chez les jeunes, aussi dans les centres de formation. Et tu te rends compte, en fait, que la période de crise, qui était une crise très violente, hein, en Espagne. Moi, j'étais là-bas, c'était le pays pas en récession, 50% de chômage chez les jeunes. T'avais des gens qui perdaient leur boulot du jour au lendemain. J'ai plein
et tu peux dire concrètement les effets que ça a eu sur le football et sur les clubs? Parce que c'était tu le précises aussi, c'est très intéressant, ça.
Ouais, bah, tu as, en gros, entre les U17 et la catégorie senior, t'as 20 titres majeurs gagné, dont 2 euros seniors, une Coupe du Monde, les U17, les U19, toutes les catégories, en fait, gagnent plusieurs fois des titres majeurs.
Ça veut dire qu'ils ont réussi à se réinventer sur le terrain malgré les difficultés économiques.
Non, mais les clubs étaient en perdition, il n'y avait plus une thune dans les clubs, plus, il faut le préciser, ça. Moi, j'avais complètement oublié ça.
Tu avais 23, sur les clubs pro, tu avais 23 sur 25 qui étaient en cessation de paiement. Donc, ils étaient sous redressement judiciaire. C'est, en gros, tous les clubs, sauf le Barça et le Real, qui étaient tous en administration judiciaire, ils sont tous passés en administration judiciaire, sinon ils ne pouvaient plus payer leurs gars. il fallait qu'ils payent leurs dettes, etc. Ce qui a permis au club de survivre, hein, de mettre en cessation de paiement. Et c'est comme ça qu'ils ont un peu réformé toute leur structure, mais surtout que leur football a complètement explosé parce qu'ils ont été obligés à ce moment-là, comme ils n'avaient plus un rond, ils n'avaient plus d'oseille, bah, par contre ils avaient plein d'idées. Et du coup, ils sont arrivés une nouvelle génération d'entraîneurs, de formateurs, de joueurs. À ce moment-là, et ça correspond.
Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'oseille au Barça qui prennent Guardiola? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'oseille au Barça, notamment, qu'on prend Guardiola comme entraîneur?
À ce moment-là, c'est parce qu'il y a une crise institutionnelle très grave au Barça, où Laporta vient d'essuyer une motion de censure, il est à 60% contre lui, et finalement, il nomme Guardiola, et moi je me suis entraîné à l'arrivée de Guardiola. Il est arrivé, tout le monde rigolait, hein. Tout le monde dit, ah, c'est qui ce mec, c'est un illuminé, en plus il veut se débarrasser d'Eto, de Deco et de Ronaldinho. On s'était dit tous qu'il arrivait là pour faire plaisir au président, faire plaisir aux sociaux, et en gros personne l'écoutait, quoi. C'était vraiment un peu un cache-misère, et chaque club avait un peu sa spécificité. Il n'y avait pas de crise économique au Barça à ce moment-là, par contre il y avait une crise institutionnelle très grave. Il y avait une crise économique dans la quasi-totalité des autres clubs, Villarreal, hein, par exemple, Villarreal qui était jusqu'à deux ans avant en demi-finale de Ligue des Champions, se retrouve trois ans plus tard en deuxième division. Il passe d'un budget de 120 millions à 15 millions d'euros. Et ce qui est très intéressant dans le modèle de Villarreal, c'est que le président, qui est un riche fabricant de céramique, décide en fait de refuser toutes les aides et de fonder un nouveau modèle économique fondé sur l'autosuffisance économique. Donc sur la formation, sur le modèle de jeu, et comme ça reconstruire entièrement le club à partir de l'autosuffisance, en refusant les dettes, en refusant toute forme d'autres subsides, au point que là ils sont remontés en première division, que le centre de formation est devenu une référence pour tous les clubs européens. Maintenant il y a énormément de gens qui vont visiter Villarreal, il a été refait entièrement, le centre de formation, c'est un des clubs de formateurs les plus intéressants à l'heure actuelle, mais on peut parler de tout un tas d'autres clubs en Espagne. Et ce qui est très intéressant, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le moment c'est simultané, et ce que tu peux regarder même dans la durée, tu te dis oui mais c'est sur les premières années, en fait ils bénéficient du travail d'avant sur les premières années, ben non, ça continue, plus ça avance plus ils gagnent. Et là tu regardes encore les derniers euros, en Euro U21, les Espagnols ils sont en finale tous les ans depuis 5 ou 6 saisons là de maintenant. Donc ça veut dire que tous les ans.
Ça c'est pas l'oseille, c'est le travail. Dans cette période-là, il faut aussi dire que le Barça est devenu le grand Barça, sans dépenser d'argent. Messi, ouais, c'est un enfant du club. Xabi, Iniesta, Busquets, c'est des gens qui n'ont pas été payés, ces joueurs-là.
Donc en fait,
on les a fabriqués.
La période de crise espagnole a fait non seulement éclater des talents. Ouais. En fait, les clubs ont été obligés de se réinventer, d'être imaginatifs et de faire confiance à des jeunes entraîneurs, enfin à des méthodes nouvelles, et ça a fonctionné.
Au niveau des joueurs, ce qui est intéressant au niveau des joueurs, c'est même un joueur comme Iniesta. Un joueur comme Iniesta, en 2008, il n'est pas titulaire avec Rijkaard au Barça. C'est Van Bommel qui est titulaire. Van Bommel, ensuite Deco. Il est titulaire en sélection espagnole, parce que tous les formateurs espagnols le connaissent depuis longtemps, mais au Barça, il a du mal à jouer, à enchaîner les matchs. Il n'est pas de droit de partir, mais quand même, il est difficile. Il arrive, et la première chose que fait Guardiola, c'est à ce moment-là qu'il décide de mettre Xavi et Iniesta. Et tout le monde dit, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible d'avoir deux milieux de cette qualité-là en même temps? Il faut des milieux, il faut des mecs un peu plus costauds, etc., etc. En total, six mois plus tard, tout le monde trouve ça normal. Tout le monde a considéré que, bon, bah, évidemment, que le Barça de Guardiola sans Xavi Iniesta, c'est quelque chose que tu peux même pas imaginer. Bon, bah, six mois avant, c'est quelque chose qui était même pas possible, et c'est rendu possible précisément par une situation de crise qui là était une crise institutionnelle, mais en plus, qui était liée à une crise politique, hein, du Barça, où Guardiola refuse quasiment de faire venir des nouveaux joueurs, et il fait venir des joueurs, pardon, mais des joueurs qui à l'époque étaient plutôt des joueurs de seconde zone, Keita, Marquez, etc. C'était pas des premières mains, quoi, si je puis dire, avec malgré tout l'aspect qu'on a pour les joueurs qui sont devenus après. Mais c'était pas des Cador, c'était pas des Neymar, c'était pas des Mbappé, quoi.
À ce stade de la discussion, ce que raconte Thibaut, là, en prenant cet exemple particulier qui est concret, hein, Laure et Jérôme, du coup, est-ce que vous vous dites, tiens, pourquoi pas, ça peut donner des idées au foot français, que Laure?
Ouais, bah moi, ça faisait partie justement des choses. Je me suis dit, dans cette crise, on a souvent vu, moi, la formation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et c'est vrai qu'en France, généralement, on forme des bons joueurs. Mais aujourd'hui, l'économie fait que les clubs, dans ce système de trading, pour souvent assurer un équilibre budgétaire, ils ont tendance à vendre ces jeunes joueurs pour faire un petit peu d'argent. Et finalement, tu perds le bénéfice de ta formation, toi, en France, et puis tu envoies tes pépites à l'étranger. Et ben moi, j'aimerais, dans mon monde idéal, après, c'est dans mon monde idéal footballistique français, ben j'aimerais qu'aujourd'hui, peut-être que ben, les clubs soient au moins composés de 50% des joueurs issus de la formation. Parce que ça rendrait, je pense, notre football un peu plus beau. Donc peut-être que oui, effectivement, c'est un monde idéaliste. Mais moi, ce côté-là, ben, j'aimerais qu'on le voit un petit peu plus en France. Les Espagnols l'avaient fait à cette époque lors d'une crise économique. Ben, je trouve que ça serait une chose importante. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de talents.
Moi, je préfère voir les jeunes Espagnols formés que ce qu'on forme nous, quoi.
Ouais, mais alors, après, t'as une deuxième évolution en même temps, en fait. C'est ça qui est étonnant. C'est quantitatif. Mais du point de vue qualitatif, le football lui-même change complètement aussi. Ça devient un football offensif. Ça devient un football créatif. Et avec pas un rond, t'arrives à faire, en fait, du football offensif. Et c'est ça la grosse découverte, en fait.
C'est le spectacle.
Plus t'es pauvre, plus tu fais du spectacle, en fait.
Thibaut, t'as vu English Game? La série sur Netflix.
Tu connais l'histoire, c'est parce
qu'ils n'avaient pas d'argent qu'ils se sont dit on va jouer autrement, on va faire inventer le jeu de passe parce que les autres en face sont plus costauds.
Et voilà. Oui, bien sûr, c'est quelque chose.
Quand on me dit on n'a pas les moyens de bien jouer, mais c'est la plus grosse des conneries qu'on peut dire. Mais oui, mais ça, il y a tellement de gens qui continuent de le dire. Mais on joue pas bien, on n'a pas les moyens. Mais il y a rien de plus con.
On joue pas bien parce qu'on a trop de moyens.
Moi, pour rebondir sur ce que vous disiez là, ce que Thibaut disait de ce qui s'est passé en Espagne, déjà oui, je veux bien le modèle du Barça. Après, t'as donné le modèle de Villarreal, mais. En fait, c'est pour en arriver à quoi, en fait, parce que en France, il y a cette crise actuelle.
Que t'as pas d'oseille et t'as des idées.
Oui, mais des idées. Mais c'est bien beau d'avoir des idées, voilà. Daniel. Avoir des idées, il faut des hommes, il faut des formateurs, il faut une philosophie qui soit différente. Comment, c'est pas parce que tu vas sortir de la crise que d'un seul coup les têtes vont se retourner,
Jérôme, tu vas te vider. C'est pas ça qu'on dit, c'est que ça peut amener les gens à réfléchir.
Mais réfléchir quoi? Parce qu'ils pensent aujourd'hui en France, et j'en ai la quasi certitude, que tous ceux qui sont directeurs des centres de formation ont la bonne idée de former ces joueurs comme ça, ces jeunes comme ça, avec par moment de la qualité technique, mais plus de la qualité athlétique.
On sait bien, mais nous, c'est ce qu'on disait, c'était qu'on espérait que ça pouvait provoquer après. Moi, j'y crois pas une seconde non
bien
plus,
sûr.
Puisque nous, on forme pour vendre le plus vite possible.
Ouais, et mais tous les formes.
Thibaut, vas-y.
Pardon de couper, Daniel, pour une fois.
Thibaut, je t'en prie.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, dans un cas normal, si on raisonne avec des catégories normales de hors crise, évidemment, on va dire on n'a pas besoin, on aimerait bien, mais on peut pas, etc. D'accord. Mais là, on a changé de paradigme, comme dirait l'autre. On a changé de paradigme. On est dans quelque chose qui est un paradigme de crise. Et quand tu regardes un paradigme de crise et tu regardes ce qui s'est passé, je te parle de l'Espagne, mais j'aurais pu te parler peut-être d'autres exemples. On prend l'Espagne. T'es en crise économique. Tu sors du confinement. Demain, tu sors au confinement. Bon, première semaine, tu dis, t'es content, t'as retrouvé la Ligue 1. À partir de la deuxième, troisième semaine, déjà, tu vas dire, vous commencez à nous casser les couilles avec votre Ligue 1. Faites-nous un peu du football. On n'est pas sorti du confinement pour regarder les 4-4-2. On est sorti du confinement pour aller voir nos potes au stade, pour aller voir des belles équipes, voir les nouveaux jeunes, voir nos couleurs portées fièrement par des jeunes.
Une exigence du public
exactement,
qui sera supérieure.
Il y a une étude historique très célèbre, étude économique très célèbre que Pierre Rondeau doit connaître, qui est une étude qui date des années 60 sur l'assistance du théâtre dans la crise des années 30 à Broadway. Les théâtres se sont remplis à Broadway pendant la crise des années 30. Et tu regardes le taux d'assistance des matchs en Liga en Espagne, donc entre 2008 et 2014, tous les ans, il augmente.
Alors qu'il n'y avait pas d'oseille à ce moment-là.
Et il commence à descendre en 2014.
En gros, c'est l'opium du peuple, quoi. C'est que pour oublier les galères, on va au stade et on veut localiser, quoi.
C'est les pains et les jeux, c'est-à-dire qu'on ne vit pas que de pain, on vit aussi de jeux. On a besoin de superflu. On a besoin de spectacles. Et donc, on peut pas raisonner avec le football comme on raisonne en vendant du PQ ou de la farine. C'est pas la même chose. On raisonne sur quelque chose qui est proche de l'art ou proche de quelque chose, c'est-à-dire d'inutile pour nos vies primaires en confinement, c'est inutile. Par contre, dès qu'on sort du confinement, ça redevient indispensable.
Alors, à ce stade du débat, j'aimerais qu'on accueille Moustapha au 32-16 qui veut intervenir. Salut Moustapha.
Bonsoir messieurs.
Alors, le discours de Thibaut, là, tu y adhères?
Ah, mort. à fond. Moi, on va dire, comme vous le savez, je suis supporter du Real, donc j'ai vécu des belles années, mm-hmm. même au niveau du jeu. Mais voilà, c'est pas non plus un jeu flamboyant qu'on voit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Qu'on sortira de ce confinement, j'espère, sans problème dans nos familles et autres. Hein, je le souhaite à tout le monde. Moi, j'ai envie de voir du beau jeu. Moi, j'en ai rien. Après, je suis pas débile. Je me doute que pendant le confinement, Zidane ne va pas devenir Guardiola, Benzema ne va pas devenir Cristiano Ronaldo. Mais je suis d'accord avec lui. On a envie de voir de belles choses. Alors moi, je suis peut-être un des moins à plaindre parce que forcément, c'est le Real. Donc, il y a quand même des joueurs de talent. Donc, je vois certaines séquences. Mais contrairement au potentiel qu'on a, c'est moche. Mais je suis d'accord avec lui pour l'ensemble du football. C'est vrai que s'il y a une crise qui touche le football, alors moi, je suis pas financier. Je suis pas Madame Irma non plus. Donc, je sais pas comment est-ce que ça fera comme pour l'Espagne ou autre. J'en ai aucune idée. On verra.
Mais il y a un truc, Moustapha, quand même, c'est que les difficultés économiques qui vont arriver pour les clubs pourraient rebattre un petit peu les cartes. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'aventures comme on a vécu récemment, l'Atalanta, l'Ajax, par exemple. On pourrait supposer qu'en fait, on voit plus d'Atalanta et plus d'Ajax, en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec vous.
Mais tu sais, pour voir ça, il faut de la volonté, du travail à l'entraînement, avec des mecs qui ont les idées de faire ça.
Mais c'est juste ça. Souvent,
la facilité, c'est de profiter des qualités techniques que tu as déjà, d'essayer de les mettre en valeur, ou des qualités physiques que tu as, c'est de faire le minimum pour avoir le résultat. Ce qui fait que tu as des équipes comme l'Atalanta ou l'Ajax, quand ça te plaît et qu'ils te font une belle saison, souvent, c'est le fruit de beaucoup de travail pour des joueurs qui sont globalement assez moyens si tu compares à des stars internationales, mais qui ensemble dans un projet collectif sur un ou deux ans réussissent à te produire ça. Mais c'est du taf, hein, c'est du taf. Hein.
Ouais, la clé c'est ça, c'est le temps en fait. C'est être capable dans une période de crise,
c'est le temps.
Capable, quand tu réduis la voilure et que tu réduis tes charges, la seule chose que tu peux offrir à des entraîneurs jeunes ou à des hommes nouveaux, c'est du temps. Et donner 2-3 ans. Regarde Gasperini à l'Atalanta, il a eu des offres d'Europe entière, il est resté précisément à cause de ça. Parce que ce qu'il voulait, c'était du temps. Et on lui en a offert à la Bergame. Je crois qu'il a sa 4e ou 5e année.
Donc la première année, ça n'avait pas très bien marché. Hein.
Voilà,
au début, ça n'avait pas très très bien marché. Il lui a fallu quand même du temps pour pouvoir installer cette philosophie de jeu. Et au début, même, il se demandait s'ils allaient le garder. Et il lui a fallu effectivement plusieurs années pour mettre en place ce qu'on voit aujourd'hui.
Mais le bien temps, sûr, c'est vrai que... Ouais. Pardon, Zibo, continue.
C'est ça. Et la seule chose que tu peux offrir à des hommes nouveaux maintenant, quand tu n'as pas de rond, quand tu n'as pas d'oseille, c'est de l'exposition et du temps. Et du temps. Et je pense que nous, on est capable de faire ça en France. On a un énorme de clubs dans lesquels on peut développer des jeunes entraîneurs. Il faudrait changer quelques hommes, proposer des idées qui sont là depuis longtemps, mais qu'il faudrait mettre en œuvre et essayer de profiter de ce que tu disais, Gilbert, de rebattre un peu des cartes. Pas tout, parce que tout n'est pas à jeter, mais rebattre des cartes au niveau de la Ligue 1 au moins, pour être capable de proposer quelque chose de nouveau et être un peu à la hauteur des attentes.
Mais d'accord, mais rebattre les cartes. Moi, je veux bien entendre tout ça. C'est beau discours, c'est magnifique et tout ça. Mais de toute façon, déjà, c'est pas que la faute des entraîneurs. Hein. Là, tu prends l'exemple de donner du temps à des entraîneurs. Oui, mais bon, déjà,
ça c'est le président qui doit donner le temps, bien sûr.
Tu peux donner du temps à un entraîneur qui a pas envie de faire le jeu que vous êtes en train de mettre en place, qui a envie de mettre autre chose en place, c'est-à-dire un jeu basé sur ce qu'on voit en Ligue 1 avec un gros bloc défensif. Avec des mecs qui ont plus des parpaings aux pieds que des belles chaussures et puis par moment avoir une action de folie et puis tu gagnes 1-0 et puis tu refermes le jeu.
Mais regarde, ouais, mais ton produit il est invendable si tu fais ça. Déjà c'est invendable.
Il est invendable,
et ensuite je prendrai le modèle de Mourinho quand il arrive à l'Eria, il reste 6 mois à l'Eria. Il dit, bon, moi je vais développer ce club. Le meilleur moyen de faire de l'argent pour un club, c'est pas de développer des défenseurs, c'est de développer des attaquants. C'est donc de développer un modèle de jeu offensif. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait. Il a emmené la moitié de l'équipe à Porto après, avec Derley, etc. Ce qu'il faut, c'est beaucoup plus intéressant de développer des profils qui sont des profils offensifs. C'est la raison pour laquelle les Espagnols aussi se sont tournés vers ce modèle de jeu-là. C'est commercialement beaucoup plus intéressant de proposer ce système de jeu-là parce que ça te permet ensuite de faire des plus-values beaucoup plus importantes sur les joueurs que tu développes. Ouais. Donc c'est, d'un point de vue économique, c'est aussi beaucoup plus rationnel de raisonner comme
mais,
ça.
Mais
c'est
on est d'accord.
C'est beaucoup plus
d'accord.
Idiot de dire, mais, je vais mettre des mecs derrière et je vais attendre et je vais peut-être gagner
Thibaut, 3 ou 4 millions
de plus que je vais gagner une place au classement. Tu vois,
je suis totalement d'accord avec toi, mais sauf que c'est pas juste un entraîneur, juste l'idée d'un président ou d'un directeur sportif. C'est un tout. C'est le mode de fonctionnement d'un club, c'est le mode de fonctionnement d'un centre de formation, c'est le directeur du centre de formation.
Comme ça, t'as des clubs en France qui commencent à réfléchir comme ça.
Ouais, ils commencent.
tu commences à avoir des cellules de gens qui réfléchissent à ça, qui commencent à s'intéresser à ce qui se fait ailleurs, parce que ce qu'on leur propose à la Fédé, c'est pas à la hauteur des attentes. Et qui
mais je suis d'accord avec toi sur, comme tu dis, parmi les plus grands.
T'as des gens très compétents, t'as des gens. C'est des gens à qui soit on leur donne pas leur chance, soit on les écoute pas, mais ce sont des gens qui sont entourés de gens qui pensent, de gens qui réfléchissent, qui vont ailleurs, qui vont visiter des autres clubs. Il y a plein de revues qui se sont créées en parallèle de la DTN, en parallèle de la Fédé, où les clubs ont leur propre écosystème qui est en train de se créer. Et t'as plein de clubs qui réfléchissent à ça.
Thibaut, je suis d'accord avec toi sur
la tendance, elle est plutôt là-dedans, tu vois, elle est pas dans autre chose.
Mais je suis d'accord avec toi sur la philosophie des grands clubs, comme tu dis. Mais c'est pas les grands clubs le problème en France, c'est les petits clubs. C'est eux en fait. Comment ils arrivent à former des joueurs qui vont prendre de deuxième ou troisième série parce qu'ils n'ont pas les premiers choix, deuxième ou troisième choix, pardon, pas série, et à l'arrivée, comment les former, et comment tu les formes avec quel directeur de centre de formation, quel entraîneur au-dessus, c'est tout simple, et à l'arrivée, c'est que l'entraîneur qui est à la base dans l'équipe professionnelle, en effet, lui ait plus de temps en se disant, écoute, si je vis une année compliquée, et il ne faut pas qu'au bout de 10 matchs, parce que je suis dans le rouge, que mon président il vient de me voir et dit écoute, t'as pas de résultat, tu dégages. Donc là automatiquement, c'est sûr que les méthodes pour t'en sortir, c'est tu te recroquevilles sur ton but, tu défends et puis t'essayes de contrer. C'est ce qui se fait au mieux, parce que les équipes qui sont très joueuses, les petites équipes et les entraîneurs qui sont très joueuses de ces équipes là souvent le prennent dans le nez, quoi. Ils y arrivent pas. Donc là, en effet, si tu laisses du temps à ce genre de club, à ce genre de centre de formation, ah là, peut-être qu'on aura un renouveau et on aura une belle surprise des petites
équipes. J'ai pas l'impression que le FC Nantes ait moins de temps que Villarreal, par exemple. J'ai pas l'impression que le FC Nantes soit un club plus important que le Villarreal, ou que Villarreal soit un club plus important que le FC Nantes. J'ai pas l'impression que Grenade, j'ai pas l'impression que Rétafé.
Mais qui c'est qui est à la tête du FC Nantes?
Que Rétafé soit un club moins important que le FC Nantes.
C'est qui le directeur du centre de formation de Nantes?
Pardon?
C'est qui le directeur de centre de formation de Nantes? Si Nantes était une référence dans les années 90-2000 termes de centre de formation.
Plus, mais ça fait longtemps que ça n'est plus, mais c'est
la. Non, mais ce qu'il veut te dire, c'est que c'est pas des clubs plus importants.
Les clubs de Ligue 1 se sont déconnectés de leur histoire. Ils se sont déconnectés de leur identité.
C'est ça.
Ils se sont déconnectés du passé. J'ai écrit 3 bouquins là-dessus. Sur l'histoire du football français, il y a énormément de. Il y a un patrimoine énorme en France. De gens qui ont fait énormément, qui ont créé plein de modèles de jeu, de gens qui pensent, de gens qui actuellement proposent tout un tas de choses. Il y a toute une littérature professionnelle là-dessus. Les seuls qui ne lisent pas ça, ce sont les entraîneurs professionnels et les gens des instances les plus élevées. Et tout le reste, tous les entraîneurs amateurs, tous les entraîneurs de jeunes, tous les formateurs, on a des formateurs. Je dis pas ça pour faire de la pub, parce que c'est pas vraiment pas l'objet. Mais il y a des formateurs exceptionnels en France. C'est pas pour rien qu'on a des super jeunes. C'est pas pour rien qu'on exporte autant de joueurs. C'est pas juste parce qu'on veut faire du trading. C'est aussi parce qu'on a des gens qui savent former des joueurs. Notre gros problème, c'est qu'au moment où on arrive à l'élite, on n'arrive pas à passer ce cap-là. Et parce qu'on considère que l'élite, c'est quelque chose à part. Alors que non, c'est juste la conséquence de tout le reste. Alors, ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, etc., etc.
Revenons à notre foot post-coronavirus, là. Moustapha, un truc à rajouter?
Oui. Très rapide, même si je sais que la crise, forcément, si elle impacte les grands clubs, elle impactera les petits, mais ce serait bien que, en fait, si ces crises il y a, ça mène des équipes, comme vous avez dit quand il y a eu l'Ajax, ou je pense au Dortmund de Klopp, à ce qu'ils restent ensemble le plus longtemps possible, parce que, en tant que footballeur, bon, quand ils nous ont mis 4-1, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais si Dortmund, ils avaient pu continuer tous ensemble, je ne sais pas jusqu'où ils auraient pu aller, mais ils auraient peut-être pu décrocher peut-être une Ligue des Champions ou quoi. Mais étant donné qu'il y a toujours la part du gain des grands clubs et tout, donc chaque année il y avait un départ et donc l'équipe s'affaiblissait. Ce serait bien qu'il y ait une équipe comme ça qui
bah, s'il y a moins de sous pour recruter, il y aura moins de départs, en l'occurrence. Bah,
pas forcément, parce que comme je l'ai dit, si les grands clubs sont impactés, forcément les petits aussi. Donc j'ai envie de dire un truc débile. Si demain le Bayern ne peut plus donner que 8 millions maximum aux meilleurs joueurs, Schalke, ils ne vont pas pouvoir donner beaucoup plus. Ils vont donner forcément beaucoup moins, donc tout le monde sera impacté. Mais si ça permet des moins gros départs, parce qu'il y a énormément d'argent et tout, ce serait beau qu'il y ait des équipes qui marquent l'histoire.
Moustapha, merci. En tout cas, salut à toi. En tout cas, avec les gestes barrières après le confinement, on aura enfin un football d'évitement.
C'est du football. En
terminé les contacts.
Ah, non, plus les duels, c'est fini. Hein.
Là, ça va régaler la chic.
Là, les gars, on va être dans la merde.
Le ballon va tourner, les gars. Là. Attends, ça va, tu vois.
Non, mais bon, c'est, il faut comprendre, Gilbert, que c'est pas, que le dire ça, c'est pas être un illuminé ou être idéaliste. Au contraire, c'est être parfaitement rationnel. C'est parfaitement, c'est ce qui s'est passé, en fait, ça. Ça, c'est, je décris, moi, je dis pas ce que je veux, moi, je décris ce qui s'est passé. Et quand tu regardes ce qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé.
Alors, attends, Thibaut, on va faire une courte pause et on continue le débat. Il y a Lionel qui veut intervenir. Et puis, alors, t'as pris l'exemple espagnol, mais tu as cité aussi d'autres exemples de clubs qui sont intéressants.
C'est Nantes,
hein. Notamment celui de Nantes, ou des Hongrois dans les années 50 par exemple, ou des Verts de Saint-Etienne au moment de la crise industrielle.
Ouais,
on en reparle dans quelques instants. On continue le débat au 32-16, bien sûr. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Laure Le Payeur est là, Jérôme Bretagne, Daniel Riolo et Thibaut Leplat. Vous retrouvez donc son papier sur sofoot.com. Hein, donc vous tapez Thibaut Leplat sofoot.com. Normalement, vous devriez le trouver. Ça date d'hier, donc c'est tout récent. Alors, avant d'accueillir... on va le faire tout de suite. On va accueillir Lionel tout de suite et ensuite on évoquera les clubs et leur renaissance dans les difficultés économiques. Salut Lionel.
Oui, bonsoir à tous.
Ah, t'es supporter nantais, ça tombe bien.
En plus, alors je peux... Oui, alors déjà, je vais m'empresser de lire au plus vite... le papier de la personne qui est intervenue.
Thibaut Leplat, oui.
Que voilà, c'est des choses que l'on échange souvent avec des amateurs de foot, soit avec des pros ou autres, et c'est exactement aujourd'hui le mal. Et j'étais un petit peu en contradiction avec ce que disait Jérôme Bretagne. Les directeurs de centres de formation, soit ont des directives, les clubs, ce qu'ils veulent, c'est vendre au plus vite. Donc, bah, ils prennent des joueurs physiques, parce qu'évidemment, quand vous faites une tête ou deux de plus que les autres, vous avez plus de chances d'attirer l'attention. Du coup, vous êtes dans les sélections, vous irriguez un peu les sélections. Vous êtes...
Mais arrêtez avec ces conneries là, parce que le mec fait deux têtes de plus, alors il va être remarqué sur un terrain. Ah bah, mais arrête, non, attends, c'est avec ce genre de discours en fait qu'on a des problèmes dans le championnat de France. Voilà, c'est tout. Et vous avez beau être un supporter du FC Nantes ou je sais pas quoi, un amoureux du football. Mais non, mais je suis parti au garde-tour parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. En plus, tout simplement, et arrêtez de me dire que les directeurs de centre, cachez les directeurs de centre. J'en connais beaucoup des directeurs de centre qui ont des discours, et c'est pas parce que le président leur a mis dans la tête. Ouais, il faut absolument qu'on vende un des jeunes. Alors, vous prenez des joueurs physiques, athlétiques. Hein. Non. Ils ont libre choix, c'est à eux et leur façon de voir les choses. En effet, bah, les met plus sur des joueurs athlétiques. Arrêtez de dire que c'est de la faute des présidents.
Jérôme, arrête. Là, tu pars tout seul sur ton aile gauche.
J'ai dribblé toute l'équipe.
Là, il est allé jusqu'au parking.
Il a même pas centré. Il m'a juste crevé une oreille. Hein.
En plus, Jérôme, je défends plutôt les joueurs, le type de joueur que tu étais. Et aujourd'hui,
eh ben voilà, ben continue.
Aujourd'hui, quand tu es un joueur avec une croissance normale, qui a de l'intelligence de jeu, eh ben bon courage à lui, parce que ces joueurs-là, on leur facilite pas la vie. Je peux te le dire.
C'est de la faute à qui alors?
Mais c'est une tendance qui est comme ça dans le foot français. Tant que Deschamps fera des miracles, il nous fera gagner avec des très beaux joueurs. D'ailleurs, tu regardes à peu près les différents joueurs. Il y en a beaucoup qui ont été un peu éjectés des centres de formation. Hein. Et tant qu'on aura Deschamps qui gagnera la Coupe du Monde, ça cachera toute la misère de la formation française derrière.
Ah, donc c'est de la faute de la Deschamps maintenant.
Non, mais non, justement. Je suis en train de dire, moi je suis le premier à être heureux, puisque je l'ai défendu depuis le départ, du travail merveilleux qu'il fait, justement, je suis en train de dire l'inverse. Mais ça, quelque part, le foot français est très content, ouais, on est champion du monde, mais en fait, la formation derrière, elle n'est pas très bonne. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, Griezmann, je suis qu'en France, il n'a pas été pris, hein. Il est parti en Espagne, pourquoi?
Donc c'est pas de la faute des présidents.
Lionel, j'aimerais que tu écoutes Thibaut Leplat qui dans son papier parle aussi du FC Nantes à un moment crucial de son histoire.
Bien sûr. Ouais, c'est la 1960, au moment où l'équipe pro descend en division 2 et le FC Nantes est un peu désespéré, le président est désespéré et ils sont sur le point d'avoir de déposer le bilan, je crois, à ce moment-là. Et puis, il laisse une annonce dans le journal en demandant est-ce qu'il y a des entraîneurs qui seraient intéressés par le job. Entre-temps, à Noyens-sur-Sarthe, il y a un type qui tient un bar, qui est un exilé espagnol, qui est arrivé là un peu par hasard, un peu à cause du XXe siècle, quoi, qui est exilé espagnol à cause de la guerre d'Espagne de 1936, qui est exilé de Bilbao, qui est arrivé à Noyens-sur-Sarthe, à quelques kilomètres du Mans, qui lit l'annonce et qui va le voir et qui dit bah voilà, moi j'ai un projet, j'ai ça, je joue en 4-2-4, j'ai joué avec mon équipe de Noyens-sur-Sarthe que j'ai fait monter en division d'honneur. Le type est assez connu dans le football amateur à l'époque. Ce type-là, c'est José Arribas. Il arrive à Nantes.
Absolument.
Il recrée toute l'école nantaise en prenant comme joueur capitaine étendard un certain Jean-Claude Ciodo. Et ils font l'école nantaise comme ça. Et c'est un mec qui est complètement outcast. C'est un type
qui sort de nulle part.
Voilà. Et qui a réinventé parce qu'à un moment de crise.
Bon, et Rebelote en 95.
Mais
oui.
Je rappelle.
S'ils prennent les jeunes de formation où il y avait l'un des meilleurs ailiers gauche de l'équipe la plus belle équipe championne de France, il y avait un bel joueur sur le côté gauche, Pedros, l'un des meilleurs que j'ai jamais eu. Non, je dis ça pour taquiner Jérôme.
C'est intéressant, une nouvelle fois, c'est dans la galère que Nantes s'est reconstruit.
Et bien 95, c'est ça. Hein.
On arrive
sûr, à faire quelque chose de. Toutes les histoires des grandes révolutions tactiques du XXe siècle, toutes les grandes équipes du XXe siècle se passent en fait dans une période de crise, pas forcément de crise au club lui-même, ça arrive, mais aussi d'un contexte général de crise. Tu regardes le Racing de l'après-guerre, juste après la guerre, le Racing de Paris, de Paul Baron, qui était un peu le premier à avoir inventé ce qu'on appelle la tactique du tourbillon, c'est-à-dire que les attaquants pouvaient un peu aller où ils veulent. Ce Racing-là, le grand Racing, c'est le Racing qui sort de l'occupation, quoi. C'est le Racing qui sort des années noires. Et c'est le moment où on demande au football de nous changer un peu les idées. C'est le Racing de Camus. C'est ce Racing qui fera rêver beaucoup de gens. Derrière arrive le Stade de Reims, créé autour de Batteux. Batteux, famille de Juste, qui a caché des Juifs pendant la guerre et qui dit bon, moi, je suis venu pour faire du football. Je suis pas venu pour faire la guerre. Donc, je vais faire du football champagne. Il a fait du football champagne. Il est arrivé en finale de Ligue des Champions. Et comme ça, etc. Regarde le Real de Di Stéfano. Quand Santiago Bernabéu arrive à Madrid, Madrid est une ville qui est complètement où les gens meurent de faim hein, quand il arrive. Il va chercher Di Stéfano, il va chercher Puskás. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de remplir son stade. Il a besoin que les gens payent leur abonnement. Donc pour ça, pour que les gens payent leur abonnement, il faut qu'il y ait du beau football. Et c'est comme ça que le Real de Di Stéfano naît, le grand Real naît dans une période, la période la plus sombre de l'histoire de l'Espagne. Et les seuls motifs de réjouissance des Espagnols à ce moment-là, c'était les victoires du Real en Coupe d'Europe. Voilà pourquoi le Real s'est construit.
Bien sûr,
je pourrais dire la même chose du Barça et de toutes les grandes équipes. Elles sont nées de ça. Elles naissent de ce moment où elles se disent il faut que je trouve un autre moyen. Il faut que je sorte de cette crise. Et je sais que les gens seront au rendez-vous parce qu'ils ont besoin de la même chose que nous. C'est-à-dire, ils ont besoin de rêver, en fait, tout simplement. Et c'est le football, il est là pour ça.
Mais Thibaut, tu mets le doigt sur un point. Moi, je reproche souvent, c'est qu'on dit souvent en France, vous voyez, on est en pénurie de très bons entraîneurs, etc. Et moi, je ne pense pas qu'on soit en pénurie. C'est tout simplement qu'on ne donne pas l'opportunité aux jeunes entraîneurs de pouvoir s'exprimer. Il y en a beaucoup qui ont évolué, justement, avec le football et qui ont plein de nouvelles idées, plein de nouvelles méthodes, mais on ne leur donne pas, à un moment donné, la chance, justement, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir proposer autre chose. Et c'est ça que je trouve dommage, parce qu'on va souvent chercher des entraîneurs étrangers, etc., alors que je pense qu'en France, on a des bons entraîneurs qui sont capables de proposer du beau football, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait certains décideurs qui donnent l'opportunité de s'exprimer. Et ça, c'est regrettable.
Évidemment, quand vous voyez la carrière d'un Arsène Wenger, vous voyez la carrière d'un Claude Puel, vous voyez la carrière de ces gens-là qui ont été obligés de partir pour arriver à avoir un peu de reconnaissance en France. Arsène Wenger, on parle d'Arsène Wenger, mais Arsène Wenger, c'était un outcast complet quand il est arrivé à Monaco. Enfin, tout le monde le regardait avec des grands yeux, on se moquait de lui, il est parti au Japon avant d'aller à l'Arsenal, personne ne voulait de lui. Il faut se rendre compte aussi de comment arrivent les choses. Je dis pas qu'il faille pleurer et faire les victimes, pas du tout. Je dis simplement que l'histoire du football est faite de ces cycles permanents. Il y a sans arrêt des moments où il y a une phase de contraction, comme dirait Ancelotti, et où il faut bien qu'on trouve des solutions, et c'est tout le propre de la stratégie, c'est ça, c'est de trouver une solution que l'adversaire n'aura pas. Donc trouver le bon entraîneur, l'idée qui va permettre d'avoir un coup d'avance. Chez Wenger, c'était par exemple le jeu court et la diététique, l'organisation professionnelle à un moment où tous les clubs français étaient encore un peu amateurs sur ce plan-là.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout a été inventé, Thibaut, et donc ça réduit un peu l'approche du football.
Daniel, qu'on pense que tout a été inventé, puis finalement, on continue à se réinventer tout le temps.
Dans le foot, je sais pas, j'aimerais bien que tu aies raison et qu'on puisse réinventer, mais aujourd'hui, le problème, c'est que si tu prends juste à l'échelle de la Ligue 1, on en parlait hier soir, ce qu'on peut appeler un projet sportif, tu ne peux en trouver que dans 2-3 clubs. Chez les autres, on n'est pas du tout dans des projets sportifs, donc encore moins dans les réflexions que des réflexions que je partage à 100%. Ouais. Mais même là, à cas par cas, des projets sportifs dans les clubs en France, tu vas pas en trouver des masses. Parce qu'on est là pour justement produire et vendre, équilibrer les comptes. Quand tu regardes toutes les discussions sur le business aujourd'hui, alors tu as raison, ils vendraient plus cher s'ils prenaient le temps de former des mecs et tout. Mais puisqu'ils sont uniquement dans un équilibre et presque même pas dans les culbutes encore plus importantes dont tu nous parlais tout à l'heure, eh ben ils vont se contenter de produire juste ce qui va leur permettre de vendre, de rincer un peu l'actionnaire. Et comme on est dans une économie principalement basée sur le trading pour tout ce qui est les clubs gérés par les fonds d'investisseurs ou par des gens qui ne connaissent pas du tout le football parce qu'ils ne sont même pas de culture football, on s'éloigne de la possibilité de voir se développer ce genre de projet-là, en tout cas en France, parce qu'il n'y a pas de culture profonde du jeu chez les gens qui dirigent nos clubs. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas en France, tu as raison de dire qu'il y a des formateurs et qu'ils l'ont. Tu as raison. Mais chez ceux qui dirigent les clubs, où tu as beaucoup d'économistes ou de présidents délégués qui doivent rendre des comptes, tu n'as pas cette culture du jeu qui est ancrée, par exemple, comme tu peux l'avoir en Espagne.
L'intelligence situationnelle de dire justement, j'y connais rien, donc je laisse ça à des gens qui connaissent.
Ouais, mais ça, tu l'as pas beaucoup.
La logique du président de club, elle est assez simple à comprendre. C'est la logique du président de club français, elle est compréhensible, hein, je ne la critique pas, mais c'est assez simple. C'est un maximum d'exposition pour un minimum d'emmerde. Donc, quand tu es sûr d'être toujours dans les 10 premiers, quand t'es sûr de, voilà, si tu rentres bien dans ton classement, t'arrives, t'as aucun moment, à un moment, t'as aucune raison, en fait, de faire autre chose, parce que comme en plus la Ligue 1 est surévaluée financièrement et tout le monde en a conscience, il faut surtout pas que ça change. Donc, voilà. Pour pas que ça change, il faut surtout pas remettre en question. Et le fait de dire, arriver demain en disant, je suis un président qui va changer les choses, je vais avoir un projet de jeu, on va développer la formation, bah, tu déranges quand tu fais ça. Tu déranges parce que tu déranges le petit écosystème qui fonctionne. Donc il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui essayent de le faire, il y a des gens qui travaillent très bien en France. Je suis pas là pour faire cocorico, je dis simplement que quand tu regardes le football français, il y a quand même énormément de gens brillants à l'étage juste en dessous. Et quand tu écoutes des gens comme Guardiola ou des gens comme Juan Malillo, qui était son grand maître, il te dit, nous, quand Michel Hidalgo il venait nous voir, on l'écoutait. Quand Gérard Rouillet il est venu nous voir nous faire des conférences, on a arrêté de l'écouter. On a pris des notes sur leur système, sur Clairefontaine, etc. Mais on n'a surtout pas écouté ce qu'ils nous ont dit sur le jeu. On a fait notre truc à nous. On a écouté Cruyff. Voilà.
Lionel, merci à toi.
Ben, merci à vous. La seule chose, si je peux juste rajouter une chose.
Vas-y.
Oui, c'est qu'en fait, tous les clubs en fait, fonctionnent de la même façon, alors que certains clubs, qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes moyens financiers, devraient justement se gratter un petit peu plus la tête, parce qu'au final, de prendre des 3 ou 4e choix, c'est des joueurs qui ne restent pas, qui au final ne font pas avancer la formation du club en question, et laissent sur le côté des clubs qui étaient déjà dans la région et qui auraient pu... c'est ça le problème, c'est qu'ils ont tous ils sont formatés tous de la même façon. Alors certains clubs peuvent se permettre, il n'y a aucun souci. Certains clubs ont le portefeuille qui leur permettra de toute façon de rectifier le tir, ou même de, comme Paris, de se permettre de laisser partir des joueurs qu'ils ont formés sans problème. Mais la plupart des clubs n'utilisent pas tout le potentiel. Okay. En fait, ils utilisent ils mettent les œufs dans le même panier. C'est ça que je peux leur reprocher.
Très bien, Lionel. Merci à toi. C'était long, hein. long développement de Lionel. Il a le droit de parler, tout à fait. On va conclure ensemble. Enfin, moi, quand tu prends les exemples là, moi, quand je vois comme l'Alsace en ce moment est touchée par le coronavirus, ça veut dire que Strasbourg va être champion dans les 3 ans, là, si je suis ton raisonnement, Thibaut.
Bah peut-être bien. En tout cas, il y aura une sympathie pour le Racing, mais elle existe déjà, la sympathie pour le Racing. Mais Racing, il y a des entraîneurs historiques, hein. Il y a des Gilbert Gress. Gilbert Gress, c'était pas du football du béton. Hein.
Gilbert Gress, que ça vaudrait peut-être le coup même d'en raconter. Bon,
après, il a un peu dévié.
Voilà.
Hein,
c'était effectivement un foot super offensif, mais en même temps, c'était des méthodes complètement, même à l'époque, complètement allumées et désuètes dès les années 80.
Il avait Paul France
militaire pour arriver.
C'est comme ça. Ah, c'est pareil. Mais ça correspond à cette génération-là. Mais Herbin est un peu comme ça aussi. Hein.
Oui, je rappelle tu sais que Gilbert Gress, il a quand même été champion avec 12 joueurs. Hein. C'est quand même... Et puis le gars, il voulait pas d'adjoint, il faisait tout seul. Il était préparateur physique, entraîneur des gardiens. Il disait, mais pourquoi vous voulez que j'ai un adjoint qui prenne la place ? Complètement barré. Enfin bon, bref.
Mais en fait, à Strasbourg, même après la fin de du confinement, là, à Strasbourg, il n'y a pas besoin de se réinventer. Vous régalez, vous, à Strasbourg, à la Méno.
Non, mais t'as pas compris ce que te dit Thibaut. C'est que tout va changer. Le spectacle, la l'attente
non, mais
des
en
gens.
En fait, moi, je comprends ce que dit Thibaut. Le problème, c'est
créer,
que.
Là.
Non, mais je comprends ce que dit Thibaut de se servir de peut-être de ce qui s'est passé en Espagne ou ailleurs. Mais il y a plusieurs façons de jouer au football, en fait. Il n'y a pas qu'une façon de jouer au football. Il n'y a pas que le jeu léché, des redoublements de passes ou ce que, du moins, la qualité technique. Il y a plein de façons de jouer au football. Et tu peux t'éclater dans plein de dans des façons différentes et c'est pour ça que je vois pas comment
prends l'Espagne, Jérôme, regarde l'Atlético. L'Atlético, c'est un autre modèle de jeu, mais c'est pareil, ça s'est construit à ce moment-là, ça s'est construit au même moment. Regarde le Rétafé, maintenant. Non, mais regarde le Rétafé. À chaque fois, je vous donne un exemple, vous dites, ah bah non, ça marche pas. Bah, si,
ouais,
marche,
t'as deux, trois clubs, arrête, tu joues sur les mots. Tu regardes le championnat espagnol, excuse-moi.
Dans ton sens, Thibaut, Rétafé ne joue pas comme le Real ou ne joue pas comme l'Atlético.
D'ailleurs, je voudrais te dire, le niveau de jeu en Espagne, en ce moment, il est plutôt en train de baisser. C'est plutôt moins intéressant maintenant que ça l'était encore il y a 4-5 ans.
Ouais, mais t'as toujours la qualité technique qui est bien en avant.
Thibaut, merci en tout cas, c'était très intéressant.
Merci déjà, et les filles.
SoFoot.com pour lire l'article de Thibaut. Un de ces quatre dans l'after.
Ouais, ça marche.
Et tiens-nous au courant de ce que tu fais, on est toujours intéressés. Salut Thibaut.
Merci Thibaut.
Ciao les gars.
Salut Thibaut.
À bientôt.
Salut Laurent. Ciao.
Bonne soirée. Deux, trois infos les gars encore. Il faudra qu'avec Paulo Breitner, cette semaine, on se penche sur le cas de Thomas Müller. Et Paulo l'adore en plus. Il est arrivé au Bayern à l'âge de 10 ans. Et là, aujourd'hui, il a re-signé. Il a prolongé jusqu'en 2023.
Ouais, quand même.
Donc, aujourd'hui, il a 30 ans. Donc, il vient de prolonger. Donc, c'est l'homme d'un club. Quand on parle de l'homme d'un club, le premier truc qui vient en tête, c'est Totti. Mais Thomas Müller, mine de rien, sacré.
Il n'y en a pas qu'un homme d'un club. Il y en a plein des mecs qui sont restés dans le club.
Au niveau européen, souvent l'emblématique, c'est qui vient tout de suite, c'est Totti.
Aujourd'hui,
t'as
c'est
les mecs
compliqué.
Du Barça. Non, il y en a d'autres. Oh. Mm. Et donc.
Non, mais aujourd'hui, c'est compliqué de passer toute ta carrière dans un club.
C'est plus facile au Bayern qu'à Kaiserslautern.
Je pense qu'il y a pire. Il y a pire que de passer ta carrière au Bayern. Et quand tu vois la qualité de Müller, j'ai eu l'occasion de le commenter avant qu'on arrête les matchs là en Ligue des Champions. Franchement, il mérite largement son contrat jusqu'en 2023.
Ronaldinho est sorti de prison, figurez-vous. On vient de l'apprendre. Alors, il est sorti de prison, mais il reste quand même assigné à résidence dans un hôtel d'Asunción, donc au Paraguay. Voilà.
D'accord. Mm-hmm. Bon, je trouve qu'il est quand même resté super longtemps, quoi. C'était un peu, mais en même temps, on n'avait aucune info sur cette histoire.
C'est sur le pas... pour rien. Et puis tiens, l'histoire espagnole du soir, qui est assez drôle, enfin assez drôle ou pas, mais Smolov, qui est un joueur du Celta Vigo, attaquant du Celta Vigo, a quitté l'Espagne en douce. Pourquoi ? Parce qu'il avait absolument besoin d'aller rejoindre sa copine, qui était à Moscou, pour fêter ses 18 ans. Et alors. Vous pouvez me dire, c'est une histoire de jeune, bon voilà. Et... Sauf qu'en fait, la copine de Smolov, c'est la petite fille de Boris Eltsine. Elle s'appelle Maria, Maria Yumacheva. Allez voir si vous voulez sur le net. Là, Smolov, il se dit, attends, la petite fille de Boris Eltsine, moi, il faut que je sois là, quoi. Donc, je quitte l'Espagne, tac, tac. Il est rentré pour l'anniversaire, pour les 18 ans de Maria. Voilà. Ça fait scandale, évidemment, en Russie. Mais...
C'est des belles histoires ce soir,
c'est
bien.
Oui, c'est des histoires, voilà. c'est l'actu, hein, qu'est-ce que tu veux en faire
c'est vrai, je sens que Jérôme est passionné, là.
On va passer au quiz, puisque c'est comme ça.
Voilà.
Notre
Jérôme,
quiz.
Il était taquet sur tes histoires, là. J'ai bien senti, là.
Ah, j'étais à fond, là.
Voilà. Bah, écoute, va sur ton téléphone et tu tapes Maria Yumacheva. Ouais. On en reparle juste après la pub. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Avec Laure Lefaillant, Jérôme Rantaine, Daniel Riolo et Julien Cazard qui nous rejoint. Julien, bonsoir.
Et bonsoir à toutes et à tous.
Alors avant le quiz, j'ai une info incroyable à vous livrer.
Oh
Tottenham,
merde.
Une nouvelle fois, ce soir, rappelle à ses joueurs leurs responsabilités en plein confinement. Pourquoi ? Parce que des vidéos ont circulé en Angleterre, on voit Mourinho photographié avec des joueurs du club en train de s'entraîner dans un espace vert à Londres. C'est pas une blague, hein, dans un parc public.
Ah ouais.
Voilà, donc il était avec Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon et on les a vus courir et tout avec Mourinho et donc tu peux pas, confinement, t'as pas le droit. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On apprend que Serge Aurier a également publié une vidéo de lui-même en train de courir en compagnie d'une autre personne.
Non, pas lui. Non, ça, non, là, je pense que t'abuses.
Donc le gars,
là, je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Non.
Donc en plein confinement, le mec,
c'est de l'acharnement, Gilbert, c'est de l'acharnement.
Exactement.
Non, là, tu t'acharnes, il y en a marre de tes fixettes, là, tout le temps sur les mêmes.
Arrête.
C'est pas possible, ça.
Pas lui.
Non, arrête.
Pas lui.
Laisse le nouvel ami de Jérôme Rotten tranquille.
Arrête.
Laisse l'ami de Jérôme Rotten tranquille.
Attention, vous allez vous prendre des claques. Ne dites pas du mal de Sergent, il va vous attraper, il va vous retrouver. Attention, il court vite, hein. Il s'entraîne encore, donc faites gaffe.
Voilà, je crois qu'il n'a pas compris le concept du confinement en fait. Mais voilà, dépêche AFP hein, du soir, on vient de la recevoir. Attention, nouveau quiz, messieurs, dames. Nouveau quiz ce soir qui démarre.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Donc, ça s'appelle le Grand Tournoi. On a voulu faire un petit hommage à Jean-Claude Van Damme. Tu connaissais son film Le Grand Tournoi. Une
sorte de. Bah évidemment, le grand cinéma, quoi.
Le grand tournoi ou
Bloodsport?
Non, le Grand Tournoi.
C'est pas Bloodsport?
Le film qui s'appelle Le Grand Tournoi, où il va avec son chapeau de cow-boy pour aller tuer tous les méchants. Enfin, aller battre tous les méchants sur le ring. Voilà.
Je connais pas celui-là.
Ça s'appelle The Quest en anglais. Attention, le Grand Tournoi, c'est tout de suite, ça démarre, jingle.
Le grand tournoi.
Dans notre monde à nous, A plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Eh oui, messieurs, dames. Attention.
Si t'enlèves le plus au milieu.
Les huitièmes de finale vont démarrer ce soir. Le premier huitième de finale va opposer Max du Standard, qui est là.
C'est énorme.
Oh, Max.
À moi.
Et qui est devenu sa chronique à Max alors.
Je suis mal tombé.
Et nous on est spectateurs, alors on dit plus rien.
Là vous êtes spectateurs, c'est one to one.
Allez Max, déchire-le.
Allez Max, on est pour toi.
Je peux déjà vous annoncer que normalement demain soir, on aura le duel, le huitième de finale Ducrot-McCardy. Alors, pour que ce grand tournoi soit égalitaire, on aura à peu près la même forme de quiz à chaque fois, Julien, hein, tu confirmes?
Oui, non, mais demain, je vais faire un quiz spécial PSG 96-2002 pour être sûr que Jonathan soit.
Il soit largué. Ah ouais, fais ça.
Max, il va mal le prendre.
Max, t'es prêt?
Oui, c'est bon, on y va.
Bon allez, t'es prêt à te faire ouvrir en deux hein, là c'est là, mais après je te dis, tu peux toujours faire une Eric Vrinogradsky contre Stéphane Edberg à Roland Garros, c'est encore possible.
Ouais, ça peut arriver, ouais.
Un lucky punch en boxe, bref. Attention, allez, vous êtes prêts? On va commencer par le quoi qui kiffe kiffe. Le quoi qui kiffe kiffe, qui est quand même un truc où on peut quand même tous gagner. Attention, quoi qui kiffe kiffe. Italie, Paraguay, Portugal, Italie.
Ils ont poussé la France en prolongation à la Coupe du Monde.
Attends, j'ai dit deux fois l'Italie alors que c'est République Tchèque le dernier.
Ils ont failli éliminer la France à la Coupe du Monde.
Non, t'as le droit de jouer Max. Italie, Paraguay, Portugal, République Tchèque. Ils ont un point commun qui malheureusement pour eux n'est pas joyeux.
Ah, ils ont perdu contre la France après une prolongation.
Non, ah, donc Daniel joue
que
du coup.
Ils ont plus de défaites.
Ah non, merde, moi je joue pas. Moi. Oh là là.
Mais non. Max.
Oui, Italie.
T'as dit quoi?
Ils ont plus de défaites en finale que de victoires.
Non, c'est pas du tout ça. C'est lié à une phase finale et à chaque fois c'est funeste.
Ils ont perdu avec le but en or.
Ils ont perdu avec le but en or, Gilbert, mais oui! Ce sont d'ailleurs, je crois, les seuls qui ont perdu avec le but en or. Max, t'es con. Alors attention, on enchaîne.
Merci,
quoi qu'est kiff kiff.
Merci de ton
quoi qu'est kiff kiff. C'est bien les commentaires derrière. Schweinsteiger, Carvalho, Perisic, Materazzi.
Ils ont marqué
en finale de Coupe du Monde.
Non.
Tu peux redire, Julien?
Non, c'est
Carvalho, Materazzi, Perisic, Schweinsteiger.
Ils ont pris un rouge dans une grande finale.
Non, et on s'approche. Ils ont fait quelque chose. Alors, je vais vous donner un indice. Vous êtes prêts? C'est lié à l'équipe de France.
Ils ont pris un rouge contre l'équipe de France.
Non. Ils ont fait un truc qui a été bénéfique pour l'équipe de France.
Merde.
Max,
ils ont marqué contre leur camp.
Je vais vous aider. Ils ont permis à la France de marquer un but.
Ils ont provoqué un pénalty
en phase finale pour la France. Eh oui, Carvalho pour le Portugal, Materazzi pour l'Italie. On s'en rappelle.
Ça fait 2-0, Max. Hein.
2-0, Max. Tu vas te réveiller. Tu vas te sortir les doigts de ce qu'on appelle le fion. Attention.
Pour l'instant, je suis en quart.
Quoique kiff kiff. Trezeguet, Kavenaghi, Batistuta, Andy Cole. Trezeguet, Kavenaghi, Batistuta, Andy Cole. Je vais vous donner un indice, c'est lié à leur surnom.
Ah, il y a Gaulle dans leur surnom.
Il y a Gaulle dans leur surnom, et oui, il est dépucelé, papa.
Bien joué,
il
est dépucelé.
Ah, c'est Max qui a répondu.
Oui,
magnifique.
C'est moi, c'est
magnifique. On va passer. Alors, vous savez quoi? Comme on est en pleine crise, c'est la crise, hein, on est d'accord? On va parler de la crise. Eh ben, on va voir si. On va voir c'est qui connaît la crise. Qui connaît la crise? Et là, c'est des vraies questions foot. Vous allez, on va parler de l'année de 2008, qui était la dernière année de grande crise dans le monde, hein, crise économique. On va voir, est-ce que vous connaissez bien l'année 2008? Hein, alors, je vais vous demander, en 2008, qui finit deuxième de Ligue 1?
Marseille, Lyon, Auxerre,
Max,
Paris, Monaco, Bordeaux.
Lens. Bordeaux, bravo Gilbert. Et Max,
Paris, cette année-là, il manque de descendre de peu.
Max, ah oui, non mais vous êtes fou, 2008, c'était les années Le Guen, vous êtes des malades, vous. Demandez à Jérôme s'il a joué le titre. Alors attention, vous êtes prêts?
Ferme-la.
Excusez-moi monsieur, vous ne participez pas au jeu, je vous demanderai.
Concentre-toi sur le quiz, connard.
Attends, excusez-moi, là je suis avec Serge Aurier au téléphone là. Attention, qui était 2008, qui a fini meilleur buteur de Ligue 1?
Max.
Non.
Bah non.
En 2008.
Je vous rappelle qu'on est en 2008, donc on est encore dans des années d'un certain club.
Gomis.
Qu'on appellerait.
Gomis, il n'était pas encore
un Olympique Lyonnais.
Yundula. Il y avait qui en 2008?
Non. Mais non, mais ils sont cons.
C'est pas un joueur de ouf. Hein. Enfin, d'après Daniel, mais sinon d'après Fred, oui.
Bah oui.
Benzema, ah, Gilbert.
Ah oui, Benzema, mais l'autre Gamero. Mais oui, il a jamais joué à Lyon, Gamero.
Gamero, meilleur buteur de Ligue 1.
Ouais, là, tu donnes trop d'indices, quoi. Là.
En 2008, il était à
ouais, mais je donne pour les deux. Attention, vous êtes prêts? Qui a été meilleur passeur de Ligue 1 en 2008?
Jean
Rotten. Mais jamais de la vie. Mais en 2008, mon pauvre ami jouait le maintien, Jean Rotten.
Bah,
tu sais combien j'ai fini? J'étais au moins 3e ou 4e meilleur passeur.
Monterubio.
Non, à toi et Max, tu te réveilles?
Oui, bah, donne le club, donne-moi tes indices.
Non, je peux vous dire que c'est un mec qui a joué au Paris Saint-Germain. Un très beau joueur de foot qui a été formé au PSG. Milieu offensif. Magnifique joueur de foot. Malheureusement, qui a pas fait la carrière à cause de sa mentalité. Jérôme Leroy, oui. Mais oui, il est là, Max.
Ça fait combien,
Jérôme Leroy.
4-2.
4-2. Attention,
il existe,
en 2008,
un Max, moi je trouve, moi.
Pas trop.
Il n'est pas largué, le Max. Attention, en 2008.
Non, mais il nous a décrit quand même Jérôme Leroy comme un joueur magnifique.
Oui, mais il a raison.
Non, c'était Maradona, c'est quoi. Non, mais attends.
Non, c'est alors là, écoute, Gilbert, je peux te dire que je pense que c'était un très beau joueur de foot. Très, très beau joueur de foot. Attention, en finale de Ligue des Champions en 2008, qui se termine au tir au but. Qui rate le dernier pénalty? Non.
Non, Max.
Il rate pour l'équipe d'en face.
Français qui a joué au PSG, formé au PSG.
Anelka.
Anelka, mais oui. Mais oui, Nicolas Anelka, bravo. Attention.
C'est Max qui a répondu.
Bien joué, Max.
Oui.
Ouais,
c'est
Max.
4-3.
Allez, Max.
En 2008. Non,
Gilbert, tu fais exprès pas répondre là, c'est pas possible.
En 2008, à l'Euro 2008, Euro magnifique Euro 2008, qui finit meilleur buteur pour l'équipe de France?
Oh,
Malouda.
Non. Non, tu confonds. Hein. Florent Malouda. C'est 2010.
Vas-y, Max.
2008, Max. Je l'ai pas. Je l'ai pas.
Non, mais balance un nom.
Mais balance des noms.
Qui c'est qui est dans 2008?
En 2008.
Abidal, t'as raison.
Abidal, le meilleur buteur.
Bah, Benzema, ouais. Il était pas, donc.
Non.
Mais vas-y.
En attaque, avec qui en 2008?
Je sais
un grand attaquant français.
Je sais plus.
Qui a joué à Arsenal, Max?
Putain.
Qui a joué à Arsenal? Pires.
Mais putain. Mais non,
Henri, on est con.
Henri, bien joué Max, Thierry Henry, qui était le meilleur buteur de l'équipe puisqu'il était le seul à avoir marqué un but.
Il y a eu qu'un seul but
contre les Pays-Bas
quand ils sont par terre et qu'ils se blessent.
un but.
C'est Max qui l'a trouvé encore.
Ouais, ouais, c'est Max.
Allez, Max.
Il y a combien?
4-4.
En 2008.
Hey, Jérôme, ça va être le cataclysme.
En 2008, Eric Vinogradski est là, les gars. En 2008.
La pression.
En 2008. En 2008.
Allez.
Qui gagne la Serie A, Max?
Juve, Milan, oui. Inter, Roma, non, c'est l'Inter.
Inter.
C'est
Inter.
C'est Inter. Merci.
Non, mais on peut
Inter.
Pas donner, on peut pas faire des énumérations de noms comme ça, c'est grotesque.
C'est pour
c'est juste la rapidité. Mais non,
c'est horrible, c'est horrible.
Attendez, bon,
normalement, il doit être sanctionné.
Non, mais c'est nul, c'est parce qu'il ne le sait pas. En fait, c'est juste du. Je balance Daniel. Des noms, quoi. Ah bah,
c'est comme ça,
Daniel,
ça
je te jure que.
Oh, c'est nul.
Daniel,
franchement, c'est nul, ça. Ouais.
Je suis avec, à mes côtés avec Serge Aurier qui est prêt à te rentrer dans la gueule à tout moment. Tu te calmes.
Non, mais je pose une réclame sur le coup. On ne devrait pas pouvoir faire ça.
Justement, on va là. Je trouve que justement cette manière de jouer est assez minable et ne ressemble pas à Gilbert Bribois. Là, c'est un homme en panique. C'est un. C'est, j'ai l'impression.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Bon,
je te signale qu'à
partir de maintenant,
toi.
Gilbert.
Quand tu affronteras Paul Vecchio.
Non, mais vas-y, continue. Il gagne du temps.
Ouais. Gilbert, tais-toi. À partir de maintenant, celui qui dit une réponse, il doit, s'il a pas bon, l'autre peut répondre.
Ah, ouais, ça, mais tu devrais déjà le faire sur cette question. Allez, 4-4, 4-4.
Attention,
non,
je le fais à partir de maintenant.
4-4.
Non, ferme-la, mais il est ouf, lui.
Putain, l'autre, il est en train de ramer contre Max, c'est la honte.
Allez, ouais, 4-4, allez, 4-4.
En 2008, où se jouait l'Euro?
En Suisse.
En Pologne.
Je bloque Gilbert en Suisse.
En Suisse et en Autriche.
Ah, et en Autriche, un putain. Point pour Gilbert. 6-4. Attention, en 2008, qui fait meilleur buteur de l'Euro?
2008. Torres.
Pas loin.
Raoul. Villa.
Pas loin.
Top, c'est fini.
Villa.
Oui.
Villa, Max. Villa. Bah, c'est Max.
Allez, bien joué, Max. Allez, vas-y.
Ouais, mais c'est fini, les gars.
Le oh non, quand tu sais que tu lui as volé un point, c'est la honte, Gilbert.
C'est la honte, Gilbert.
Il y a match nul, normalement. Il y a match nul. Je pose une réclamation. Il y a match nul. Il y a
match nul. Vas-y, dernière.
Et taisez-vous, c'est la dernière. Taisez-vous. Que s'est-il pas. Quoi qui s'est passé? Quoi qui s'est.
Non, c'est fini, le chrono est fini. C'est la
honte. Oh là là, c'est honteux. C'est honteux. Jérôme,
moi, j'accepte pas.
C'est fini.
J'accepte pas. Le match doit être rejoué. Le match doit être rejoué.
Moi, je peux pas faire le quiz demain. Je fais pas le quiz demain. J'ai trop honte.
Bravo Max.
Oh, c'est horrible. Demain. Gilbert, comment tu peux te satisfaire de ça?
Là, c'est
foncièrement. Tu t'es fait manger.
C'est
foncièrement.
Tu sais, faut démarrer des compétitions doucement. L'Espagne,
oh, non,
en 2010,
là, c'est
ils perdent leur premier match. Ils finissent sur
premier match. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a pas vu, Jérôme, ce soir?
Ah ouais, ouais, mais horrible.
La vérité, ce soir, on l'a vu.
C'est l'Italie 82.
J'ai un petit message pour perdant.
Il y a des gens qui n'ont pas réussi. Parce qu'ils ne sont pas aware.
Voilà Max, c'est ce qui t'a manqué, connard.
Oh mon Dieu, c'est horrible.
Oh
c'est
mon Dieu, quelle honte. Vous avez vu, tous les auditeurs ont vu la personnalité de Gilbert.
Là, c'était pas les chats, hein, Jérôme, hein, là.
Ah non, là, non, là. En grande difficulté.
Demain, le choc du Cromacardi. Attention, parce que toi, tu vas te faire sortir par Vidas, tu feras moins mal.
Là, quelle honte.
Dans
c'est du beurre.
C'est une boucherie. C'est une boucherie.
Vous m'avez mis la pression, vous allez voir quand ce sera votre tour. Vous allez voir.
Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ce soir.
Quelle honte.
Merci, Laure.
Bravo,
merci,
Max.
Daniel.
T'as gagné
le vainqueur moral. Max est le vainqueur moral.
Bravo, Max. Bravo, Max.
Julia, demain également.
T'es Rocky dans Rocky.
Demain soir, l'after à 22h. Les drôles de la
Jean Chial. Merci, Max.
Entre autres,
merci.
Au programme demain, on se remémorera.
Serge Aurier te dit bravo. Hein.
On se
remémorera demain les grands ratés des sélections nationales de nos drôles de dames. Vous allez voir, il y a plein de
Toi, t'en étais un grand raté là.
Ce sera demain soir. Bonne nuit à tous.
RMC. L'Afterfoot.